La route des savoir-faire et des sites culturels de Chartreuse est un itinéraire qui permet de découvrir toute la diversité des activités, des professions et des sites culturels de Chartreuse. Fermes, ateliers, musées ouvrent leurs portes pour perpétuer l'héritage chartrousin et développer une offre touristique. Radio Couleur Chartreuse vous propose d'aller à la rencontre des artisans, agriculteurs et sites culturels. Parce que n'oubliez pas, la réussite, c'est un peu de savoir, un peu de savoir-faire et beaucoup de faire savoir.
Trying to make some sense from all the stress that is constantly going on. I just drift along with no focus or meaning. The bats there are at the ceiling. I just drift along with no focus or meaning.
Alors, nous sommes ici au musée Atelier de l'eau à Cognin, en Savoie, en présence de...
Claude Vallier, ancien maire de la commune et président fondateur de l'association Cognin Eau Vivante.
Et...
Géraldine Meyer, animatrice pédagogique de l'Atelier de l'eau.
Alors, vous êtes une structure, l'une des nombreuses structures qui font partie de la route des savoir-faire. Avant de parler un petit peu de la route des savoir-faire, ce qui nous intéresserait, et avant de partir aussi sur ce chemin de l'atelier de l'eau, à la découverte de ce que vous proposez, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir comment ce musée est sorti de l'eau, ou c'est le cas de le dire, comment il a émergé.
Alors, il a émergé à partir de l'histoire du passé industriel de Cognin, organisé autour d'un canal historique dérivé de l'Yerre qui coule de Chartreuse.
Donc l'Yerre étant une rivière.
L'Yerre étant une rivière qui va rejoindre la Lesse puis le
lac qui est plus connu. La Lesse est plus connue sur
le lac du Bourget. Ouais. Et ce canal, nous avons la chance dans notre commune de l'avoir conservé. Ce qui n'est pas le cas des autres canaux qui existaient dans le bassin chambérien, y compris le canal de Mérande, dérivé de la Lesse.
D'accord.
Et pour donner du sens à cette conservation du canal, nous avons souhaité le valoriser en restaurant une friche industrielle qui conservait une roue à auget. Et à partir de là, nous pouvons présenter le passé industriel de Cognin, expliquer le fonctionnement des moulins, voir comment l'homme au cours des siècles, voire des millénaires, a su mettre à son service la force de l'eau. Et puis nous avons souhaité élargir cette thématique de l'eau, préoccupation actuelle, avec l'eau source de vie, l'eau énergie renouvelable, l'eau enjeu de guerre et de paix à l'échelle mondiale.
On est garni en eau du côté de la Chartreuse, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans la vallée. Vous me parlez du passé industriel de Cognin. Alors à Cognin, on connaît l'un des fleurons industriels locaux qui est le Opinel, les couteaux Opinel, bien sûr, qui sont même l'un des fleurons savoyards. Voilà.
Oui.
Quelles sont les autres enseignes? Alors l'ancienne usine Opinel, d'ailleurs, était au bord de ce canal, j'imagine, puisqu'on la voit encore. Quand on passe dans le centre de Cognin, sur la droite, en direction de Chambéry.
Tout à fait. Ce qui a motivé d'ailleurs la famille Opinel, venue de Maurienne,
oui,
de choisir
cet endroit-là,
c'est parce que M. Joseph Opinel, le père du couteau, qui porte son nom, savait qu'il bénéficierait ici, avec le canal, d'une eau abondante, d'une eau régulière, qui lui permettrait de mener à bien ses projets de développement, jusqu'à l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui, qui rayonne dans le monde entier et qui a dû se délocaliser à quelques centaines de mètres sur le territoire de Chambéry, faute de place ici.
Dans un beau bâtiment en bois, qu'on voit aussi en rejoignant la voie rapide. Là,
tout à fait. Il est tout proche d'ici et d'ailleurs il est à quelques dizaines de mètres du canal qui non seulement parcourait 3 km sur Cognin avec 12 entreprises, mais se poursuivait sur Chambéry jusqu'au niveau du centre funéraire ou de la maison d'arrêt,
oui,
pour rejoindre
l'Yerre,
avec 5 usines, 5 entreprises sur, euh, sur Chambéry. Et puisque je parle des entreprises de Chambéry, ça me permet de répondre aussi quels sont les autres noms emblématiques dont,
si,
nous, pouvons,
si
dont ouais. nous pouvons nous enorgueillir. C'est que ici à Cognin, se sont succédés sur le canal des meuniers Chiron. Et cette famille Chiron a donné dans toute l'agglomération des meuniers réputés jusqu'à ce que l'un d'entre eux diversifie sa production vers la vermicellerie, l'ancêtre des pâtes Chiron, et que l'autre, lui, applique à la pierre ce que ses ancêtres avaient appliqué au grain, à savoir la création du ciment, des ciments Chiron. Les uns comme les autres ayant dû évoluer, ayant dû se regrouper, Chiron ciment absorbé par Vica. Et
on a aussi Vica en Chartreuse.
Vous avez Vica en Chartreuse, vous voyez, comme quoi nous avons pleinement raison d'être sur la route des savoir-faire de la Chartreuse, Cognin étant une forme de porte d'entrée de la Chartreuse. Et Chiron Pâte s'est allié en 2003 avec un autre marchand de pâtes, fabricant de pâtes sur le canal encore, les pâtes Richard, qui entre-temps s'était délocalisé dans la zone industrielle de Chambéry pour avoir des terrains à la dimension de leur développement, les deux s'étant alliés pour créer Alpina.
Oui,
Alpina, que les Savoyards connaissent bien, connaissent peut-être davantage aujourd'hui les Crozets, puisqu'on a réinventé cette recette ancestrale.
Excellente.
Et excellente. On pourrait également citer la famille Bollon, des négociants en bois, qui ont pu développer leur activité, là encore, dans la zone des Landiers, à travers l'enseigne .p Bollon.
Oui, effectivement. Alors, le dénominateur commun, parce que ça semble évident à le dire comme ça, mais de la proximité d'un cours d'eau pour ces entreprises, c'était la force motrice, j'imagine, qui pouvait entraîner tout ou partie des machines.
Tout à fait. La raison d'être de ces entreprises, c'est leur présence d'ailleurs, c'est sur le canal, qui remonte au 15e siècle, d'après les documents les plus anciens que nous ayons conservés, mais peut-être au-delà. C'est la force de l'eau qui a permis le développement d'un grand nombre d'entreprises. Des moulins, bien évidemment, mais aussi des scieries. Donc, le canal s'est trouvé être la colonne vertébrale d'une zone industrielle à l'échelle de l'agglomération, parce qu'il permettait l'utilisation de la force motrice de l'eau avec des roues. Alors, roue horizontale, roue verticale, celle qui est conservée ici et qui met en œuvre des machines est une roue verticale à auget.
Alors, comment vous écrivez auget ?
A-U-G-E-T-S, puisqu'il y en a plusieurs, et ça vient de auge, c'est-à-dire comme une petite cuvette dans laquelle l'eau va s'amasser et le poids de l'eau va faire tourner la roue.
Va entraîner, ah, c'est voilà. Ça, une roue à auger, d'accord.
Voilà, et l'eau arrive par-dessus, alors que les roues avec lesquelles on est peut-être plus facilement familiarisé, ce sont des roues à aube, au fil de l'eau, où l'eau pousse les pales de la roue.
Oui.
On en a une devant l'atelier de l'eau qui a été construite par les élèves du collège Henri Bredeau de Cognin. On n'est pas peu fiers que des élèves de 3e, à quelques semaines de leur départ du collège vers les établissements secondaires de l'agglomération, se soient mobilisés, une dizaine d'entre eux, pour construire cette roue.
D'accord.
En 2012. Et elle est encore à sa place en 2019.
Super. Alors maintenant, on va faire peut-être avec Madame Meyer le pourquoi du comment la route des savoir-faire en ce qui vous concerne.
Il nous a semblé important de pouvoir effectivement rejoindre ce réseau pour bénéficier un petit peu d'un partenariat avec d'autres sites qui sont présents sur cette route, nouer des rencontres aussi autour d'événements, pourquoi pas, et permettre à l'époque à l'atelier de l'eau, qui était encore peu connu du grand public, d'avoir une dimension à l'échelle de la Chartreuse, et puis surtout effectivement la valorisation de tout ce passé autour, alors pas forcément toujours de l'artisanat, mais de sciences, de techniques. Et il nous semblait donc intéressant de faire partie de cette route.
D'accord. Ben alors, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'atelier de l'eau. Alors, nous nous trouvons à l'intérieur du musée atelier de l'eau. Et donc, on a plusieurs espaces qui sont proposés aux visiteurs. Et Madame Meyer, est-ce que vous pouvez nous décrire justement ces espaces ?
Alors, on a tout d'abord une salle d'accueil hein, qui nous permet d'accueillir notre public et qui est une salle qui va retracer l'historique de ce canal des usines au travers notamment d'une grande carte qui va donc montrer un extrait de la map Sarde de 1732 avec le tracé de la rivière Lière et juste au-dessus de ce tracé le parcours du canal et les différentes usines ou moulins qui étaient installés sur ce canal, avec également donc des références historiques à des moments clés de la vie du canal, donc 1732, l'établissement de la map Sarde, hein. Première fois où on a pu savoir quels artisans étaient installés sur ce canal, est-ce qu'ils étaient propriétaires, exploitants ou les deux.
Avec un maximum de moulins quand
oui,
même.
Oui, hein, à cette période-là, d'ailleurs, le canal s'appelait le canal des moulins, il n'était pas encore dénommé le canal des usines.
Et petite parenthèse d'ailleurs concernant ce canal, il est artificiel à l'origine par rapport au cours de Lière.
Tout à fait, ce sont donc les hommes qui l'ont construit hein, pour pouvoir mieux maîtriser la force de l'eau.
Hydraulique.
Et le premier artisan connu à avoir utilisé l'eau de ce canal était un forgeron nommé Simon Verselotte, qui en 1486 avait demandé au seigneur de Villeneuve, alors propriétaire des cours d'eau et forêts, de pouvoir installer sa forge sur ce canal qui, on l'imagine à cette période, était très court et rejoignait rapidement Lière hein, avec une prise d'eau un petit peu en amont du pont Saint-Charles et un retour à Lière aujourd'hui au niveau de un petit peu après la chute numéro 2 du canal. Et le seigneur de Villeneuve avait accepté, mais contre le versement d'un denier fort qu'il payait annuellement.
Alors, ce qui est intéressant dans cette carte, je la regarde un petit peu en diagonale, si je puis dire. Je disais dans un premier temps, effectivement, dans les années 1732, un maximum de moulins qui étaient installés le long de ce canal. Ensuite, dans les années 1871, c'est une majorité de minoteries qu'on va trouver le long du canal, même si on trouve aussi une fabrique de draps, fabrique de chapeaux, filatures, tissage. Dans les années 1906, il y a toujours des minoteries, mais on trouve également scierie, tannerie, marbrerie, tissage. Et c'est dans les années 1950 qu'on va retrouver les couteaux Opinel, mais également une fabrique de pièces pour moulins, une scierie, filature, mécanique générale, moyeux de bicyclette, des tissages soieries, pardon, une minoterie à nouveau et la scierie Pellarin.
Voilà, donc il faut simplement préciser que pour Opinel, ils se sont installés dès 1915 sur Cognin.
D'accord.
Cette dernière partie de cette carte montre plutôt la fin de vie des usines sur le canal, d'accord, puisque la majorité des usines auront fermé entre les années 50 et 60.
D'accord.
Donc vraiment ce qu'on appelle l'apogée de l'utilisation du canal des usines et notamment de l'utilisation de la force hydraulique se situe au début du XXe siècle hein, avec donc ces 12 usines différentes installées tout le long de Cognin et comme l'indiquait tout à l'heure Monsieur Vallier, encore 5 autres usines installées sur Chambéry. Effectivement, cela montre la sophistication des mécanismes et les activités qui évoluent par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le canal est devenu le canal des usines, avec un syndicat des usiniers et l'existence d'un règlement de l'utilisation de ce canal, parce que quand les activités humaines se multiplient, eh bien, il faut des règles.
Les cadrer.
Voilà.
D'accord. Les étapes du musée.
Alors ensuite, comme vous pouvez l'observer, on a une scénographie qui est très interactive, et on a voulu effectivement que ce soit un musée dans lequel les visiteurs pourront...
Puissent être acteurs, en fait.
Voilà, tout à fait, être acteurs pour mieux comprendre, mieux apprendre. Et donc là, on se trouve dans une salle qui va d'abord traiter, au travers de cette grande fresque murale, de l'eau comme source de vie, eau dans ses diverses utilisations. Et donc, les visiteurs vont pouvoir trouver différents niveaux de lecture, et notamment ce qui peut être très intéressant avec les enfants ou les enseignants qui se déplacent avec leur classe, tout un système de petites fiches tirettes qui vont répondre à des thématiques un petit peu particulières, où on va apporter des éléments d'information sur une thématique.
Vous venez de tirer une petite tirette, comme vous dites, qui concerne la composition en eau du corps humain.
Tout à fait.
Et on voit effectivement des choses très intéressantes que même nous adultes ne savons pas. Nos os sont composés à 22% d'eau, les muscles 73%, la peau 71%. Les reins 80%, j'en passe, et le cerveau 85%. C'est assez intéressant, effectivement. Donc c'est en fait, donc on a toute une série de panneaux comme ça avec des petites tirettes
qui font un point de vue particulier sur une thématique.
Sur des questions très pertinentes. Voilà. Qu'est-ce que la soif?
Exactement.
L'eau pour votre usage domestique. J'imagine que la question, par les temps qui courent, est intéressante. Oui. Quelle quantité d'eau dans nos aliments? La répartition des usages de l'eau en France, de l'eau pour fabriquer. Donc j'imagine qu'on parle de la force hydraulique au XXe siècle, XXIe siècle.
De consommation, pour qu'on se rende compte effectivement que si je vous donne un exemple, pour fabriquer une automobile, il faudra 35 000 litres d'eau pour arriver à la fabriquer. Donc effectivement, c'est aussi faire prendre conscience de nos consommations très importantes pour arriver à produire ici des objets, mais également tout à l'heure on parlait de la nourriture.
Oui. Au-delà de la force motrice, effectivement, l'impact de l'eau dans les productions peut être important. Alors là, on a des espèces de petits bureaux avec des tablettes numériques.
Alors on a un grand pôle central, effectivement, qui va là pour illustrer vraiment l'utilisation de la force motrice et l'évolution des moulins au cours des siècles. Donc nous avons à la fois des éléments qui vont s'actionner avec toute une série de maquettes qui sont actionnables par manivelle. On va reprendre en fait l'histoire des moulins au cours des siècles et la sophistication des mécanismes. Donc on part de l'Antiquité avec les premiers moulins à farine, entraînement direct, la meule est mue directement par la roue qui est immergée dans l'eau. Et ensuite, on voit une deuxième illustration, et ça montre bien comment justement ces mécanismes ont évolué avec l'introduction par les Romains, des systèmes d'engrenage. Et on voit ici qu'effectivement, la roue n'est plus maintenant horizontale, mais verticale. Et les engrenages vont permettre de mouvoir cette meule tournante et ainsi avoir une production beaucoup plus importante. Okay. Donc, au travers de ces maquettes...
Moins liées en clair au débit de l'eau, peut-être.
Voilà, on démultipliait la force. Donc ensuite, effectivement, petit à petit, de nouveaux mécanismes vont
voir le jour.
Ici, on a une illustration de la cam qui était utilisée par le forgeron, notamment. Le système de la bielle manivelle qui a été utilisé dans les scieries. Et comme vous avez pu le voir sur le canal, l'activité de la scierie était importante, avec la grande scierie Bollon, notamment. Et puis, on arrive à, parce qu'on n'en a pas encore parlé, au système qui était utilisé dans ce bâtiment. C'est un système de poulie-courroie. Et l'activité qui était menée au sein de ce bâtiment, c'était une filature de laine. La filature de laine Thomas. Et donc, dans ce bâtiment, cette activité de filature pouvait être menée grâce justement à l'acquisition donc, de la roue verticale que vous avez pu observer, notre roue à auget, et les systèmes de poulies courroies qui permettaient de répartir les machines sur les deux étages du bâtiment. La laine étant stockée en haut du bâtiment, et ensuite on avait toutes les séries de machines avec bien sûr différentes étapes, comme une première étape qui consistait à nettoyer la laine, à la laver. Ensuite il y avait des machines qui servaient à la carder, à la bobiner, et on arrivait à fabriquer comme ça des grandes bobines de fil de laine qui étaient ensuite vendues à d'autres artisans sur le canal, puisque vous avez pu voir qu'on avait beaucoup d'activités autour du textile.
Tout à fait.
Et on arrivera à la dernière illustration, donc au travers d'une petite maquette représentant une centrale hydroélectrique.
C'est notre force hydraulique aujourd'hui, du 20e, 21e siècle.
Tout à fait. Donc les personnes, les visiteurs, peuvent avoir des compléments d'information grâce à des audiovisuels qui reprennent ces thématiques et qui sont aussi répertoriés par ordre chronologique, plus des espèces de petits livres qu'on ouvre et sur lesquels on vient là aussi, comme tout à l'heure le système de fiches tirettes, apporter un élément d'éclairage sur une thématique, comme ici, comment transporter l'électricité.
D'accord. Donc en fait, ce musée se visite. Alors j'ai bien entendu le côté pédagogique pour des classes qui viendraient visiter, mais les gens qui sont en famille peuvent également, ou des individuels. Comment ça fonctionne ?
Alors on accueille le grand public sur deux créneaux particuliers. Donc le samedi après-midi, les membres de l'association Cognien Eau Vivante accueillent nos visiteurs grand public, et moi j'accueille plutôt sur les périodes de vacances scolaires. Donc nous sommes ouverts tous les après-midi durant les vacances scolaires de notre zone.
D'accord, très bien. Et les samedis donc
Et les samedis, après-midi, par l'association Cognien Eau Vivante.
D'accord. Alors là, il y a autre chose à l'étage.
Alors voilà, on a voulu effectivement créer un lien entre passé, présent, futur. Et dans cette dernière salle qui est sur un demi-étage, on va retrouver la thématique donc des énergies renouvelables. L'eau, une énergie renouvelable parmi tant d'autres. Et également la thématique ô combien importante de l'eau enjeu mondial.
D'accord. Oui, ça c'est vrai que c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Et heureusement d'ailleurs, il était temps.
Voilà, donc après on a gardé toujours cette scénographie interactive avec des systèmes ici de petits flipbooks que les visiteurs peuvent actionner par un système de manivelle. Et là, on va traiter des thématiques de la petite hydraulique, de la biomasse, du biogaz ou encore du biocarburant.
Qui sont aussi complètement d'actualité.
Tout à fait. Et on a illustré sur ce côté de la salle donc les autres énergies hormis l'eau, donc le vent, l'énergie liée à la chaleur de la terre au travers de la géothermie, et l'énergie solaire bien sûr. Et comme on souhaite effectivement que les enfants puissent manipuler pour comprendre, on a proposé un petit jeu interactif où on observe un paysage avec donc les différentes sources d'énergie, et ensuite les enfants vont avoir un petit jeu à réaliser. Ils observent un petit dessin sur une molette, ici par exemple un panneau solaire sur une habitation, et le but c'est qu'ils retrouvent la source d'énergie. Donc on leur propose quatre options.
Voilà.
Le soleil, un dessin de vache, l'eau ou la terre. Et lorsqu'il va placer donc la petite molette sur la réponse, il va pouvoir soulever un petit cache pour vérifier si sa réponse est juste ou fausse.
D'accord, intéressant. Alors, je vois notamment sur la géothermie, on a une petite maquette d'un sol recouvert de neige et de terre en dessous, bien évidemment. Une galerie creusée sous la terre, et on comprend par là même l'hibernation des marmottes, puisqu'on a une petite marmotte qui hiberne dans son trou, qui est propre à la Savoie d'ailleurs, entre autres. Voilà, donc c'est vrai que ça doit percuter dans la tête des visiteurs.
Voilà, c'est assez visuel, effectivement, et ça permet tout de suite de reconnaître l'énergie renouvelable dont on parle ici, la terre
et ce qu'est la géothermie,
la chaleur de la terre, tout à fait. Alors après, l'intérêt aussi de ce musée, c'est d'avoir des niveaux de lecture différents. Donc sur ces thématiques, notamment de la géothermie, si on souhaite aller plus loin et s'adresser notamment à des jeunes qui sont un petit peu plus âgés ou des adultes, on a également des compléments d'information au travers de fiches qui apportent des éléments un petit peu plus poussés sur ces thématiques-là.
D'accord. Ah oui, c'est par couleur, c'est ça ?
Tout à fait, oui. Après, on a des systèmes comme ceci, mais on parle en fait de toutes les énergies renouvelables, biocombustion, biogaz, géothermie.
D'accord, voilà. Oui, c'est bien interactif, c'est bien sympa. Alors, il me reste à voir la roue que m'a promise M. Lionel.
Oui, la roue fonctionnant encore aujourd'hui. On a eu la chance de pouvoir récupérer la machinerie d'un ancien moulin situé sur le canal. Et donc, on vous montrera la salle des machines avec donc le système de transmission qui permet d'actionner un ancien moulin à huile de la famille Berthollet, donc famille qui était installée sur ce canal jusque dans les années 50.
Eh bien, on y va. Alors, donc, nous voilà au-dessus de la roue. En fait, on a une espèce de vitre posée par terre. Et en dessous, décrivez-nous, on voit
donc,
l'eau qui coule.
Voilà. Donc, en fait...
Sur une roue, donc, c'est ça ?
Voilà, la roue est juste en dessous de l'eau. Hein. Effectivement, vous voyez qu'il y a un coursier métallique.
Oui,
qui
à
permet,
l'extérieur.
Voilà, à l'extérieur, qui permet de guider l'eau jusqu'à la roue. Et le principe, c'est effectivement des ogets qui vont se remplir d'eau et la roue va ainsi se mettre en mouvement. Donc là, on n'utilise pas la force, mais on utilise le poids de l'eau pour la mouvoir. Et donc, c'était des roues qui étaient très souvent installées justement dans des canaux comme ceci, où on n'a pas une quantité d'eau très importante. Vous voyez, là, il suffit de ce petit filet d'eau pour remplir ses godets.
D'accord.
Et actionner la roue. Et ensuite, elle va permettre, cette roue, d'actionner au rez-de-chaussée du bâtiment toute une série de machines. Donc là, on a pu reconstituer, en termes de fonctionnement, l'ancien moulin à huile des établissements Berthollet.
Ce qu'on va faire.
Oui, ce qu'on va aller visiter tout de suite.
Très bien. Alors, on se trouve là dans... Est-ce qu'on peut appeler ça une salle des machines
Oui.
Avec les divers métiers, peut-être. Alors moi, je regarde ça avec mon œil de néophyte qui pourrait être celui d'un visiteur. Donc, on a une machine à tisser d'un côté, une meule de l'autre, pour, je sais pas, pour l'huile ou pour...
Vous expliquer. Ouais. Vous avez devant vous un moulin à huile tel qu'il a fonctionné sur la première chute et que nous avons réinstallé dans cette salle avec les différentes étapes de la fabrication de l'huile, avec les molles qui écrasent les cerneaux, le fourneau...
Donc l'huile de noix.
L'huile de noix, ou de noisette, le fourneau qui va permettre d'évaporer le surcroît d'humidité, la presse hydraulique pour disposer de la force pour presser l'huile. Bref, ici, on peut rappeler les différentes étapes de la fabrication de l'huile de noix avec une machine authentique qui a pratiquement un siècle aujourd'hui. Et puis, les membres de l'association Cognon Vivante ont ajouté, pour des raisons pédagogiques, des maquettes ou des
machines en taille
réelle, comme ce petit métier à tisser qui renvoie au passé textile de Cognon. Cette scierie si battante qui renvoie aux scieries existantes. Et puis, ils ont même ajouté une dynamo qui est actionnée par la force de l'eau et qui va produire notre propre électricité, telle que vous le voyez, y compris de l'électricité qui peut faire tourner un petit moulin. Le public est toujours très, très intéressé de voir comment en direct
comment ça a pu fonctionner autrement qu'avec l'électricité ou
exactement. Et ce moteur électrique va se substituer à l'usage direct de la force de l'eau à partir de l'arbre de roue vers la fin du 19e début du 20e siècle, et les scientifiques parlent d'une révolution spatiale parce que à partir du moteur électrique, avec un seul fil, on pouvait le déplacer sans difficulté dans un local, alors que être tributaire de l'arbre de roue, c'est évidemment une contrainte difficile pour occuper l'espace.
Alors je vois aussi une ancienne remorque de pompier, c'est ça ?
Oui, c'est une pompe incendie.
Alors est-ce qu'elle venait pomper du coup dans le canal ?
Alors on l'a mise...
Ou c'est pour la décoration, le plaisir ?
On l'a mise ici pour... la décoration, si vous voulez, et simplement rappeler que l'eau, c'est aussi, on en a malheureusement besoin, dans la mesure où il faut quelquefois éteindre des incendies.
Oui.
Et on a là une des vieilles pompes qui appartenait au corps des pompiers lorsqu'il était encore limité à la commune. Et vous avez une dernière salle qui permet de résumer en quelque sorte tout ce qui est présenté dans le canal.
Avec la production finale. Voilà. Ah, joli.
Fameuse
semelle en bois, d'accord,
de l'usine Pellarin, le couteau Opinel, la farine,
les navettes, les navettes de fil de soie,
soie ou noir. On avait également au bord du canal des entreprises qui n'utilisaient pas forcément l'eau pour comme force motrice, mais l'eau pour laver les terres. Et c'était la raison d'être d'une poterie, la poterie Schlips, qui a été très célèbre. De la même manière, il y a eu aussi bien sur Cognac que sur Chambéry des tanneries importantes, tanneries Dumas. Cette tannerie d'ailleurs que la famille Opinel va acheter en 1915, mais tannerie Balle sur la partie chambérienne, puisque pour travailler les peaux des bêtes et les transformer en cuir, il fallait utiliser l'eau en abondance.
D'accord. Donc on a effectivement les couteaux Opinel là-bas au fond, une photo d'ailleurs du personnel Opinel avec le fondateur et sa famille.
C'est un peu la photo de la saga Opinel avec au cœur, au centre, Joseph
le Opinel, patriarche avec des bacchantes qui n'ont rien à envier.
Ses deux fils Marcel et Léon qui ont développé l'entreprise, son petit-fils Maurice, mort récemment, qui l'a fait prospérer. Et cette entreprise aujourd'hui est dirigée par Denis Opinel, c'est la quatrième génération, et c'est une belle histoire, puisque le couteau Opinel non seulement porte le nom de son créateur, mais aujourd'hui est présent dans le monde entier. La production Opinel est à 50% réservée à l'exportation.
Oui, ils ont bien su développer effectivement ce petit couteau simple.
Pour faire vivre ce musée atelier de l'eau, nous avons non seulement Géraldine, animatrice, qui s'intéresse plus directement à l'accueil du public scolaire, des plus petits jusqu'aux plus grands. On a eu quelquefois des étudiants qui sont venus ici et qui peut développer toute une série d'animations pédagogiques. Et pour l'aider, la soutenir dans son action, nous avons donc
les bénévoles de l'association.
Voilà, l'association Cognac Vivante, qui avec ses bénévoles, quand elle n'est pas en soutien à l'action de Géraldine, accueille le grand public, notamment tous les samedis après-midi en période d'ouverture,
elle
de 15h à 17h. Et puis également, à leur demande, même en dehors des périodes d'ouverture, pour être le plus accueillant possible à des groupes d'aînés notamment. Et il y a une très grande disponibilité de notre structure pour valoriser ce domaine de la culture scientifique et technique qui apparaît quelquefois comme le parent pauvre de la culture tout court. Une raison supplémentaire d'ajouter à la richesse de la Chartreuse par cette diversification de ses activités et de tout ce qui en a fait l'histoire et qui mérite aujourd'hui qu'on en visite ces territoires.
Eh bien, c'est une belle façon de le promouvoir. Je vous remercie en tout cas tous les deux. Et j'espère que les auditeurs qui auront l'occasion d'écouter l'émission ne manqueront pas de venir satisfaire leur curiosité au-delà de ce qu'on a dit, ou à partir de ce qu'on a dit d'ailleurs, de ce qu'on a évoqué tout, au fil de l'eau, dirons-nous. Voilà, merci beaucoup.
Merci
à vous.
Someone's always talking when I try to make some sense of all this stress that is constantly going on. Just drift along with no focus or meaning.